Dans le prolongement de l'exposition Rosa Bonheur à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, qui a eu un grand succès, elle sort de leur réserve. Les artistes femmes de la collection du musée sont à l'honneur dans la salle des actualités du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Sylvaine Lestable, la commissaire de l'expo, est au micro de la grande radio.fr Bordeaux-Gironde.
Nous nous sommes interrogés pour présenter des œuvres dans cet espace, qui est un espace dévolu à la présentation des œuvres graphiques du musée en général, ou enfin de la collection du musée, puisque cette collection n'a pas vocation à être exposée de manière permanente, dans la mesure où le taux d'éclairement, qui se mesure en lux, doit être un maximum de 50 lux et les œuvres ne doivent pas dépasser 3 mois d'exposition. Cette exposition dure 6 mois et d'où le fait que la lumière s'allume ou s'éteint en fonction des visiteurs pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Et ce que nous nous étions dit dans le prolongement de l'exposition Rosa Bonheur, c'est qu'il y avait 2 thématiques à explorer, soit le fait que Rosa Bonheur soit une artiste femme, soit le thème animalier puisque c'est une artiste animalière. Donc on a commencé à chercher à regarder dans la collection toutes les œuvres représentant des animaux. Ça pouvait aller jusqu'aux caricatures, aux satires, enfin tout ce qu'on pouvait trouver du 16e siècle au 21e dans notre collection d'art graphique, photographie, dessins, gravures, aquarelles, tout ce qui était sur papier. Et il n'y en avait pas suffisamment pour constituer une exposition. Donc on a décidé de passer sur la seconde thématique que sont les femmes. Et là, on avait suffisamment d'œuvres pour présenter, pour remplir, pour faire un accrochage assez conséquent dans la salle, mais on se concentrait essentiellement sur des œuvres plutôt fin 19e et essentiellement 20e siècle. Donc l'idée était de l'étendre petit à petit. L'exposition s'est déroulée comme ça, on a tiré le fil de la pelote. On a décidé de l'étendre à des œuvres non graphiques, des peintures. Et puis petit à petit, on s'est dit que c'était restrictif de la limiter. Donc on a présenté tout ce que l'on pouvait trouver dans la collection, quelle que soit la typologie de matériaux, d'œuvres d'artistes femmes, tapisseries, dessins, aquarelles, gravures, sculptures, céramiques, tout ce que les femmes avaient pu traiter. Et dans ces cas-là, on remontait à des œuvres qui dataient du XVIIe siècle, ce qui nous intéressait. Et l'idée était que ces œuvres proviennent de notre collection. Donc on est allé également récupérer des œuvres déposées dans d'autres musées de la ville, puisque c'est une tradition de déposer des œuvres. Et c'est ainsi que nous avons pu constituer ce corpus d'à peu près 110 œuvres qui correspondent à 90-95 artistes différentes, sachant que la collection du musée comporte à peu près 150 artistes femmes et 300 œuvres d'artistes femmes, puisque certaines peuvent en avoir produit plusieurs.
Le public peut contempler les œuvres réunies par grand sujet et genre.
Alors la difficulté, bien sûr, c'est que les femmes ont été très longtemps, jusqu'à ce qu'elles aient accès à une formation dans une école publique, et l'école des Beaux-Arts, formation qu'on leur a ouverte assez tard, puisque c'était à la fin du 19e siècle. L'école du Louvre a ouvert en 1882 pour elles, et l'école des Beaux-Arts de Paris officiellement en 1897, pour que les femmes puissent recevoir un enseignement pratique et théorique en art. Jusque-là, elles ne pouvaient pas y accéder au même titre que les hommes, et encore moins aux ateliers de nu. Et c'était donc, il existait une autre école, une école privée qui s'appelle l'Académie Julliard, qui était tenue par un ancien boxeur, et dans laquelle Monsieur Julliard, et dans laquelle enseignaient différentes personnes, notamment Anna Klumke, y a enseigné, qui a été la dernière compagne de vie de Rosa Bonheur, qui était présente dans l'exposition Rosa Bonheur. Et donc c'était difficile tant que les femmes recevaient leur formation parce qu'elles étaient femmes, mères, filles, elles appartenaient à une famille d'artisans ou d'artistes. C'est comme ça qu'elles accédaient à la formation artistique, jusqu'à la période où elles ont pu apprendre comme les hommes. Elles n'avaient pas accès à l'académie royale au XVIIIe siècle, à part quelques femmes. Et après, à la Révolution, ça ne les a pas aidées. Tout a été fermé pour elles. Donc c'est vrai que l'essentiel des œuvres sont des œuvres anciennes, sont des pastels, des hardis mineurs, des sujets et des supports. C'était de la tapisserie, de la broderie, de la miniature, de la céramique, du dessin, mais pas des grandes peintures comme la peinture d'histoire qui pouvait donner lieu à des commandes et qui était quelque chose qui était rémunéré de manière assez conséquente. Donc c'était des commandes que les hommes conservaient pour eux, puisqu'il fallait des modèles nus, vivants, pour construire les œuvres. Donc les femmes faisaient surtout des paysages, des bouquets, et encore des paysages pas extérieurs, puisque sans être accompagnées, sans chaperon, elles ne pouvaient pas les peindre, se promener dans la nature. Donc ce sont plutôt des portraits intimes, des natures mortes, des fleurs, des scènes de la vie quotidienne, des enfants, quelque chose d'assez intime, tourné dans la vie domestique.
L'exposition présentée aux visiteurs en toute autonomie, même sans cartel.
Dans la mesure où nous avons choisi de présenter la plupart des femmes conservées dans la collection, des œuvres de femmes, et que nous sommes arrivés à cette centaine d'œuvres, effectivement les murs ne sont pas élastiques, étaient trop petits, donc on a fait ce choix de les présenter comme elles sont dans nos réserves, c'est-à-dire de manière très dense, sur des grilles, ce qui est le cas dans les réserves, des grilles fixes ou coulissantes. Là, la photographie des réserves les montre coulissantes, mais sinon elles sont fixes sur les murs, et de manière assez tassée, puisqu'il n'y a pas une place libre dans les réserves, et du coup les cartels, ce qui est la petite étiquette avec l'information sur l'œuvre et son artiste, n'était pas possible. Donc on a fait le choix d'éditer un petit livret qui reproduit une vignette de l'œuvre avec les informations sur l'artiste. Et ce qui était très important à mes yeux, c'était de mentionner donc le nom de l'artiste dans sa totalité, son nom de jeune fille et de femme, son lieu de naissance et de décès avec la date, le titre de l'œuvre, le matériau, si c'était de la tapisserie, de la peinture, d'écrire, et surtout le mode d'acquisition dans la collection. Et c'est là qu'on s'est aperçu que pratiquement 80% ou 70% des œuvres, enfin un très fort pourcentage, étaient des œuvres données, léguées, des œuvres non pas achetées. Elles sont entrées dans la collection, soit par des dons des artistes eux-mêmes, soit de la famille, des ayants droit, des héritiers, pour qu'une trace persiste. Mais alors que pour les œuvres d'artistes hommes, on est à peu près à équivalent autant d'entrée par acquisition que par les autres modes qui sont le legs, la donation. Voilà, donc c'était déjà un peu genré de voir et important de voir la façon dont la collection s'était constituée, d'où l'information dans le livret également.
Artiste femme de la collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, à découvrir dans la salle des actualités du musée jusqu'à février 2023. Merci Sylvaine Lestable pour cet échange au micro de la Grande Radio.fr Bordeaux-Gironde.